Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Laurita et si vous êtes là, ça n'est absolument pas par hasard. Cela signifie que vous êtes prêt à vous élever et à créer la vie que vous méritez. Préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau, ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente en activant votre pouvoir personnel. Dans ce podcast, je partage des méthodes puissantes autour du développement personnel, professionnel et spirituel. Et chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration au travers de mes différents réseaux sociaux afin de créer des déclics et de révéler votre potentiel infini. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce podcast Sarah, qui est hypnothérapeute et qui est spécialisée dans la dynamique amoureuse et les relations de couple, et plus spécifiquement aussi dans les relations flammes jumelles. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé à plusieurs reprises sur ce podcast parce que ses enseignements sont riches et qu'elle est vraiment la spécialiste du sujet. Aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous ses plus précieux conseils pour une relation épanouie, elle qui reçoit énormément de couples au travers de thérapies. J'espère que cet épisode vous plaira. Vous pourrez retrouver évidemment Sarah sur YouTube, Les états amoureux, et toutes les informations pour la contacter sont dans les notes du podcast. Bonne écoute! Bonjour Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Il est vrai que ça fait longtemps qu'on échange toutes les deux, donc là j'avais vraiment envie de proposer ton savoir à nos auditeurs. Est-ce que tu peux commencer par te présenter déjà, de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça?
Oui, alors merci beaucoup d'abord pour ton invitation, Laurita, ça me fait très plaisir effectivement, ça fait un petit temps déjà qu'on échange toutes les deux et qu'on voulait faire ce moment-là ensemble, donc je suis ravie qu'on puisse le faire. Alors moi, pour me présenter en deux mots, je suis psychopraticienne et hypnothérapeute, c'est-à-dire que je fais de l'hypnose et j'accompagne les gens dans des thérapies qu'on appelle les thérapies brèves, et ma spécialité, si on peut dire, c'est les dynamiques relationnelles et le rapport amoureux. Moi, dans mon parcours, je me suis intéressée toujours depuis toutes mes études de philosophie, de sociologie, de psychologie et de cinéma au rapport amoureux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est au centre de mon activité. Et j'ai dédié une grosse partie de mon travail sur YouTube, notamment au phénomène des flammes jumelles. Et voilà, autour de cette idée-là, j'accompagne les gens à comprendre un petit peu ce qui se passe en eux, dans l'amour et à travers les différentes manifestations de l'amour, les différentes relations amoureuses qu'on peut avoir tout au cours d'une vie.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous les détailler? J'imagine que il y en a énormément, mais je sais qu'il y a les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc. Mais je ne suis pas très calée là-dessus, donc si tu peux nous faire un petit débrief.
Ouais, bien sûr. Alors d'abord, il y a toujours plein de prismes pour regarder les relations amoureuses. Quand on a envie d'avoir un prisme très spirituel, on va effectivement parler d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de relations dites karmiques, etc. Donc on peut classer ça aussi dans un autre prisme où on va pouvoir parler de relations fusionnelles, de relations de codépendance ou alors de relations toxiques. On parle beaucoup de relations perverses narcissiques ou alors tout simplement de relations mûres. Voilà, il y a différentes manières d'aborder l'amour. Mais en gros, on pourrait dire, si on a envie de résumer, qu'il y a trois grandes directions dans les histoires d'amour. Il y a les relations très passionnées, qui est accompagnée de douleurs, de souffrances, de déchirures, de « je t'aime mais je ne peux pas être ni sans ni avec toi ». Et souvent, on va retrouver là-dedans tout un tas d'histoires d'amour qu'on peut dire des relations toxiques parce que c'est difficile, ou des relations flammes jumelles, parce qu'on a des difficultés à s'accorder, à être ensemble. Ensuite, on va avoir un autre grand champ qui va être des relations heureuses et des relations dites matures, où on arrive à construire, à s'engager ensemble, à faire des projets. Donc, on peut parler d'âme sœur, on peut parler aussi tout simplement de relations adultes. C'est ce moment où, dans sa vie à soi, on est bien construit, on a un peu moins de blessures, on a appris de ses expériences, et puis on est capable d'être dans une relation où l'autre a toute sa place sans qu'on ne renonce à la sienne. Et ça, c'est des relations qui sont pas simples à construire, mais quand elles sont là, elles sont très très solides et en général très heureuses. Et puis ensuite, il y a, on va dire, tout le reste qui sont des amourettes, des petites passions, des petites aventures, des relations aussi de rapport de force où on reste au stade de la séduction et qui peuvent être des relations aussi chouette à vivre que souffrante. Voilà, il y a trois grandes familles, en fait, de relations amoureuses. Mais tu sais, Laurita, je crois que les gens doivent comprendre une chose qui est assez libérateur, en fait. C'est qu'il y a autant d'histoires d'amour que de gens pour aimer. Parce qu'une histoire d'amour, en réalité, c'est la rencontre de deux personnes qui vont créer un système unique entre eux. Et c'est vraiment très difficile, en réalité, de pouvoir apporter une information générale sur les histoires d'amour, parce que tout est toujours unique. Et je crois que chacun, dans son parcours de vie, peut même vérifier que même s'il a eu plein de partenaires, et même s'il a eu parfois l'impression de revivre un petit peu tout le temps les mêmes schémas, eh bien, il y a toujours, c'est toujours en fait unique et différent à chaque histoire. Et c'est ça qui est très, très beau, en fait.
C'est vrai. Et puis, je pense que c'est aussi lié au fait que chaque histoire te fait un petit peu grandir. Donc après, tu te retrouves peut-être dans un schéma répétitif, mais c'est pas si répétitif puisque toi, t'as évolué, la personne en face n'est pas la même. Donc c'est vrai que ça varie. C'est vrai que c'est libérateur de se dire ça quand même.
Oui.
Et je me demandais, du coup, t'as parlé de relations toxiques. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Enfin, j'entends souvent parler de personnes toxiques. Moi, je pense qu'il n'y a pas de personnes toxiques, mais qu'il y a des relations toxiques parce que... pour les blessures qui se ravivent entre elles, qui se répondent. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses qu'il existe des personnes toxiques ?
Alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que, alors d'abord, je te rejoins sur une chose. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, on est relié à lui et donc on est deux. Hein. On imagine un fil et puis au bout, il y a deux personnes. C'est une relation, donc on co-construit toujours ce qu'on vit. Je crois que c'est hyper important que les gens qui sont dans des relations dites toxiques et donc qui souffrent beaucoup reprennent une forme quand même de pouvoir sur ce qu'ils vivent et se responsabilisent. Je co-construis toujours ce que je vis. Hein. Je suis le dénominateur commun de mes échecs et de mes aventures un petit peu. Donc, quand quelqu'un est toxique avec nous, c'est que quelque part, il y a quelque chose en nous consciemment ou inconsciemment, qui l'y autorise. C'est-à-dire qu'on n'a pas refusé la toxicité et qu'on ne s'est pas barré, quoi. On est resté. Donc, il y a toujours, effectivement, une co-construction. Donc, est-ce qu'il existe des personnes toxiques en elles-mêmes ? Je ne crois pas, parce qu'une personne, elle ne va pas être toxique pour tout le monde. Elle va être toxique pour un tel ou un tel, et puis peut-être pas pour d'autres. Donc, c'est toujours une co-construction. Et qu'est-ce que c'est une relation toxique, si on devait la définir en deux, trois mots ? Moi, je crois que c'est une relation qui apporte plus de souffrance et de perte de confiance en soi que de valorisation et de bonheur. Il y a un truc quand même qu'il faut, je pense, bien jauger. Quelle est la différence entre une histoire toxique ou une histoire d'amour ? C'est peut-être un peu cucu la praloche comme réponse, mais c'est la capacité à être heureux de cette relation. Est-ce que cette relation, quand je parle avec l'autre, quand je pense à lui, quand je suis avec lui ou avec elle, est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis apaisé ? Est-ce que je suis serein ? Ou est-ce que je suis transcendé et que ça me donne envie de me dépasser et que je suis dans la joie ? Quand il y a toutes ces composantes très positives, on va plutôt être dans une histoire d'amour. Il peut y avoir des petites complications, évidemment. Mais finalement, si quand je pense à l'autre, quand je suis en interaction avec lui, je suis en souffrance, je ressens de l'angoisse, je suis en panique, en insécurité, je me sens incompris et je ne sais plus quoi faire, pour le garder, là, on rentre dans une bataille avec soi et on n'est pas dans l'amour. Là, on va être dans la dépendance, on va être effectivement dans la toxicité parce que ce sont des relations qui vont venir grignoter petit à petit l'estime de nous, jusqu'à nous éteindre. Je crois que c'est quand même un peu basique, mais parce qu'on pourrait aller dans le détail, mais déjà cette sensation d'être bien ou d'être inquiet peut déterminer la nature de la relation. Après, on peut, si on est blessé, peut-être qu'on va y revenir plus tard, être inquiet de base. Et là, ça se travaille.
Et justement, effectivement, ça se travaille. Comment est-ce qu'on se libère ? Déjà, comment on sait qu'on est blessé ? Parce que ça, finalement, quand on ne fait pas le travail sur soi, parce qu'on est pris dans une vie à 100 à l'heure, on ne sait pas forcément. Ouais. Comment identifier ses blessures et surtout, comment s'en libérer ? Parce que quand on rencontre quelqu'un, si nos souffrances résonnent l'une avec l'autre, si personne ne fait le taf, on ne s'en sort pas.
Exactement. Alors ça, tu vois, c'est tout à fait ce qui est développé en fait dans cette allégorie des flammes jumelles, c'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent et qui ont un espèce d'une évidence, une révélation, qui se reconnaissent comme si ils pouvaient reconnaître leur noyau interne et s'aimer, quoi. Et pourtant, il va y avoir en eux énormément de blessures qui vont faire que leur relation va quasiment être impossible ou en tout cas extrêmement complexe et souffrante au départ, puisque malgré l'amour pour qu'il se porte, eh bien, chacun va être amené à retraverser ses blessures. Alors, comment on sait quand on est blessé ou quand c'est juste l'autre, en gros, qui se comporte pas bien, ou quand c'est simplement qu'on est en train de rentrer dans une relation toxique? Il suffit d'observer, de prendre un tout petit peu de hauteur et d'observer. Et de se dire, quand j'ai mal, qu'est-ce qui me fait mal? Est-ce que ce qui me fait mal, c'est quelque chose qui m'appartient? Ou est-ce que ce qui me fait mal, c'est quelque chose que l'autre fait? Je donne un exemple très concret parce que c'est des trucs qu'on a beaucoup en consultation et qui a l'air de rien, mais qui est quand même très très douloureux pour beaucoup. Je suis en début de relation ou je suis dans une relation avec quelqu'un, j'envoie un message, par exemple, il répond pas. C'est basique, mais parfois, juste le fait de ne pas recevoir un message crée énormément de souffrance, ça va créer des grosses angoisses. Et là, on se dit, où est le problème? Est-ce que le problème, c'est que la personne ne réponde pas au message? Ou est-ce que c'est le problème que moi, je ne puisse pas gérer cet espace-là, cet espace de vide, cet espace d'attente, cet espace de peur? Parce que dans l'attente et dans le vide, il y a le noyau pour toutes mes peurs. Parce que finalement, l'autre en face, il a absolument le droit d'être occupé, de différer la réponse, de ne pas avoir envie de répondre. Il a le droit d'être de mauvaise humeur. Enfin, l'autre est libre. Et à partir du moment où cette liberté de l'autre vient nous faire mal à l'intérieur de nous, eh bien là déjà, on peut se dire que c'est plutôt nous qui sommes blessés que l'autre, parce que l'autre ne fait rien si ce n'est exister, quoi, dans tout son droit d'existence. Donc, une blessure, c'est finalement son incapacité en soi à gérer les événements, tu vois. Je ne sais pas si je suis claire.
C'est clair, c'est très clair. Donc, si, par exemple, je suis avec quelqu'un qui me tape, non, admettons, qui m'insulte, calmons-nous.
Non, mais on peut, parce qu'il y en a beaucoup qui restent, donc on peut utiliser ça comme exemple.
Ok, je suis avec quelqu'un qui me frappe, là, c'est clairement lui qui a un problème.
Oui.
Ou moi, j'ai une blessure de rester.
Les deux. En fait, les deux. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, évidemment, parce que il y a toute une emprise, il y a une peur, et puis celui qui tape et qui insulte, l'instant d'après, très souvent, est dégoulinant d'amour et de culpabilité. Donc, on est dans un système, où il y a de l'emprise, et finalement, le cerveau a cette capacité étonnante, qui est une magnifique capacité de pulsion de vie. Alors, dans ce cadre-là, je dirais malheureusement, a toujours sélectionné le beau, malgré tout. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent dans des relations violentes et des relations toxiques, parce que le cerveau va dire « oui, mais ». On m'a battu ? Ouais. Oui, mais. Oui, mais il y a ça. Oui, mais il y a ça. Oui, mais il y a ça. Et donc, on ne part pas. En gros, oui, dans une situation où on est insulté et battu, l'autre transgresse des règles, d'humanité sociale, et transgresse la loi aussi, tout simplement. Donc ça n'est pas acceptable. Et quand on reste, fort est à parier qu'on a un système en soi qui est blessé et déréglé. Parce qu'un système sain, si on peut dire, c'est un peu dur de parler de ça comme ça, parce que quand on touche à l'humain, on ne peut pas être aussi catégorique, mais en gros, un système sain va se sauver de ce qui est dangereux. Si je retourne à l'instinct animal, un lapin qui voit une bagnole qui lui fonce dessus, il s'en va, il se sauve. Et sauf que parfois, dans la vie humaine, on s'aperçoit qu'on est plus capable de supporter la souffrance et la douleur que de s'en sauver. Eh bien, à partir de ce moment-là, oui, je pense qu'il y a un travail approfondi à faire, effectivement. Et c'est ça, la blessure. La blessure, c'est l'apprentissage de tolérer ce qui fait du mal, alors qu'on devrait et on pourrait s'en sauver.
Très intéressant. C'est très bien comme définition. Et pour s'en sauver, admettons, on se rend compte qu'on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On vient de voir?
Alors, on peut venir me voir, oui. En fait, l'idée, c'est d'aller me voir moi ou quiconque qui pourra d'abord comprendre un petit peu les enjeux du cerveau, parce que tout ça, c'est complexe. Il ne suffit pas de dire à une femme battue, mais enfin, madame, il faut partir. Parce qu'évidemment, sinon, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps, si elle en était capable. Donc, l'idée, c'est d'aller voir n'importe quel professionnel de la thérapie. Donc, moi, j'invite toujours plutôt les gens à aller voir un psychothérapeute. Moi, je fais des thérapies, bref, je fais de l'hypnose. L'hypnose s'occupe beaucoup de l'inconscient, parce qu'on voit bien que dans ces situations-là, où finalement on souffre, personne n'a un plaisir volontaire à souffrir. On ne se dit pas « Ah chouette, je vais rester dans une situation dans laquelle je souffre. Non, on voit bien que c'est des choses qui ne sont pas choisies. Et dès lors que les choses ne sont pas choisies, c'est qu'elles sont inconscientes. Et il y a quelque chose en nous qui décide à notre place. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller plutôt dans des thérapies qui s'occupent de la conscience. Donc il y a l'hypnose, il y a l'EFT qui est très bien, il y a le MDR. En fait, toutes les disciplines qui gèrent les traumas, les traumatismes. Parce qu'en fait, un traumatisme va créer à l'intérieur de soi comme un petit logiciel qui va se dérouler tout seul, au-delà de ce dont on aurait besoin, en fait. Et on n'est plus maître de soi. Donc oui, des fois, il y a des pensées à court-circuiter. On peut aussi travailler sur ses croyances. On peut aussi travailler sur, sur ces fameuses blessures de l'âme. Qui sont en général très très anciennes et très très profondes. Donc oui, je dirais que tout ce qui va venir toucher à l'inconscient est intéressant, mais pas que. Il y a aussi toutes les thérapies brèves, les thérapies systémiques, donc moi j'en propose. On va regarder finalement le système à l'intérieur de soi, comment on fonctionne, c'est quoi nos boucles comportementales, pour essayer d'aller parasiter ces boucles-là et puis les faire changer. Et puis on regarde aussi dans un couple, quelle est la boucle du couple. On peut travailler de plein de manières, mais je crois qu'effectivement, avoir un tiers va être hyper important à ce moment-là. Parce que si on pouvait s'en sortir tout seul, je crois qu'on l'aurait déjà fait. Et oui. Être accompagné par un professionnel sur quelques séances, 5, 6, quelques mois, voilà. Je pense que parfois, c'est nécessaire. Moi, je dis souvent, le cardiologue ou le chirurgien ne peut pas s'opérer à cœur ouvert. Il peut se diagnostiquer, mais il ne peut pas s'opérer. Donc, l'introspection, la compréhension, la conscientisation sont des étapes importantes. Mais parfois, pour changer, pour le changement, il y a besoin de quelqu'un.
Oui. Surtout qu'on apprend énormément. C'est toujours un chemin vers soi-même, quoi.
Exactement.
D'ailleurs, je suis venue te voir aussi. Et je pense que chaque spécialité t'apporte quelque chose.
Absolument. Il y a franchement, aujourd'hui, le champ des thérapies, il est large de chez large. Il y a des thérapies alternatives, on parle de thérapie énergétique, enfin bon, les annales akashiques, les constellations familiales, bref. En fait, peu importe ce qu'on va choisir comme approche, l'idée, c'est de pouvoir être réorienté sur son histoire, avoir un regard nouveau, comprendre ses propres nœuds, pour pouvoir les défaire et s'en libérer, quelle que soit la discipline qu'on va choisir finalement, si elle nous fait du bien, c'est OK. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise thérapie.
Non. Et du coup, toi, tu es spécialisée, comme tu le dis, dans la dynamique de couple. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la problématique ou les plus grosses problématiques que les gens rencontrent en couple?
Oui. Alors, il y en a deux. Il y a deux gros pavés dont vont découler tous les autres. Mais quand même, le gros pavé, le premier, c'est la communication. Je crois que la communication, c'est vraiment... Quand je te parle, est-ce que tu m'entends? Et quand je te dis quelque chose, est-ce que c'est que tu le comprends, en fait, hein? Parce qu'on peut se parler pendant longtemps, finalement, sans que l'autre n'entende véritablement. Et ça... Ça, c'est quand même le plus gros truc. Parce que la communication, ça s'apprend, en fait. Hein. On apprend à lire, à écrire, mais on n'apprend pas à faire des phrases qui peuvent être entendues. Alors, on va apprendre ça dans des formations commerciales, dans des formations pour vendre, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué quand les gens viennent. Ils se disent, mais non, mais moi, je suis dans l'amour, je vais être dans l'authenticité, je veux dire les vraies choses du cœur, etc. Donc, oui, tout ça, c'est très bien. Mais si on ne sait pas organiser sa communication pour qu'elle soit entendue. Un message, moi j'aime bien la métaphore de la lettre. Si on envoie une enveloppe vide, il n'y a pas de message. Par contre, si on envoie une enveloppe avec un truc dedans que l'autre va pouvoir capter, là, le message est passé, l'information est passée. Donc, il ne suffit pas d'utiliser les mots. Je crois que c'est important aussi d'apprendre à communiquer. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples qui parlent et qui n'avancent pas et qui donc se sentent impuissants, se sentent frustrés, se sentent incompris. Et ça crée des grosses crises de couple. Donc d'abord, apprendre à se parler, apprendre à s'écouter, je pense que c'est le premier noyau. Et puis le deuxième grand noyau, c'est qu'on s'aperçoit souvent que dans les couples qui souffrent, qu'ils soient de longue date ou qu'ils soient tout nouveaux, très souvent, les gens ne sont pas capables eux-mêmes d'être le garant de leurs propres besoins et qu'ils attendent que ce soit l'autre qui réponde à leurs besoins. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal, d'attendre que l'autre nous rende heureux. Et c'est les deux grandes directions. C'est-à-dire que souvent, dans les couples, on attend que l'autre, d'abord, nous comprenne. Bon, première chose. Alors, surtout s'il ne comprend pas, on va se dire, mais j'aimerais me sentir comme ça quand je suis avec lui ou avec elle. J'aimerais qu'il fasse ça. Et en fait, on s'aperçoit que très, très, très souvent, le couple, c'est aussi le lieu, malheureusement, où on va démissionner de soi-même, alors que c'est absolument l'inverse qu'il faut faire.
C'est vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, on se sent soutenu, on estime que l'autre doit nous soutenir, doit nous épauler, mais du coup, on lui laisse carrément les pleins pouvoirs et ça l'empower
oui.
Complètement.
Et l'autre va avoir, on lui met inconsciemment, sur les épaules la mission et la dette de nous rendre heureux. Et c'est très compliqué parce que on ne peut pas en permanence être dans la phase de conquête. Moi, j'entends beaucoup de femmes me dire oui, au début, il m'envoyait des SMS, bonjour, bonsoir, t'as bien mangé, tu te couches à quelle heure, est-ce que t'as lu le journal, enfin, bon voilà. Et maintenant qu'on est ensemble et qu'il a eu ce qu'il voulait, ça c'est le grand truc, maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, il m'envoie plus de textos. Mais en fait, il faut accepter qu'à un moment donné, on ne peut pas en permanence être dans la conquête, qu'à un moment, la relation s'installe. Et que lorsqu'elle s'installe, c'est une nouvelle phase dans laquelle on va développer autre chose. Et ça me permet aussi, pour compléter la réponse à ma question, Laurita, ce qui est aussi très difficile, c'est que je pense que les gens ne se doutent pas qu'une relation de couple subit, comme en fait la vie des gens, subit des étapes et des passages. Et des rituels de passage. Et un jour, on a 5 ans, et un jour, on a 10 ans. Et dans une relation de couple, un jour, on se rencontre, et puis un jour, on s'engage, et puis un jour, il y a une petite crise, et puis un jour, il y a ça. Et en fait, un couple, c'est jamais un plateau. Et je crois qu'il y a un fantasme de la relation où on se dit « Ah, ça y est, je suis arrivée. Ah, ça y est, on est ensemble. Ah !» Et puis stop. Non. Ça n'existe jamais. Et je crois que malgré tout, ça reste un fantasme. Qu'à un moment donné, on est arrivé et que ça va être un plateau heureux qui va rouler tout seul. Eh bien, c'est une illusion parce que le couple est fait de deux composantes individuelles et complexes qui s'appellent l'être humain et que chaque être humain a en lui-même des mouvements émotionnels, des mouvements psychiques, des doutes, des ceci, des cela et que le couple est en permanence à réajuster, en permanence.
Et donc, est-ce que ça voudrait aussi pas dire qu'il faut l'entretenir ?
Absolument.
Faire attention. Comme tu le disais, peut-être déjà apprendre à communiquer. Parce qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas qui est cette personne. Hein, on ne connaît pas son éducation, qu'est-ce qu'il a appris dans sa vie, comment lui, il communique. Et du coup, une fois que tu es avec quelqu'un, ok, bon voilà, tu as passé la première phase de lune de miel. Après, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu vas être un peu déçu, peut-être, parce que tu vas te rendre compte que justement, il ne t'écrit plus pour te demander si tu manges bien. Ouais. Voilà. Et comment faire pour justement maintenir quand même cette espèce de séduction conquête, même si elle n'est plus là. Oui, il n'y a plus de plateau, mais il faut quand même toujours se séduire un petit peu.
Oui, et bien c'est ce qu'on appelle après cette phase de lune de miel, c'est ce qu'on appelle la phase de désillusion. Je sais que tu en as parlé dans un podcast, et moi aussi j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, il y a un phénomène qui est absolument normal, et heureusement qu'il existe ce phénomène, ça s'appelle l'idéalisation, la cristallisation. C'est ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, il est le plus beau à nos yeux et il est où nous sommes la plus belle à ses yeux, c'est valable aussi dans l'autre sens. C'est un moment où on projette tous nos espoirs amoureux sur cette personne. C'est ce qui fait qu'on tombe amoureux, donc c'est d'abord hyper naturel. On va mettre l'autre sur un piédestal, en gros, hein, pour parler simplement. Et puis, évidemment, quand on avance dans la relation, eh ben, on va découvrir que l'autre, quand il mange, peut-être qu'il peut avoir un bout d'épinard entre les dents. Je caricature, hein, mais c'est ça. Que peut-être le matin, il est bougon. Il a un petit trou à sa chaussette. Voilà, c'est des petits détails. Là, je parle de détails physiques un peu rigolos, mais ça peut être aussi des détails de personnalité. On va s'apercevoir que cette personne qui était pour nous la quatrième merveille du monde, en fait, elle est normale. Et souvent, à cette étape-là, qui s'appelle la période de désillusion, qui est là encore hyper normale, parce que personne n'est un dieu, hein, on est tous des humains, souvent les gens s'en vont, se disent « ouais, mais non, mais en fait, ça va pas le faire ». Et c'est très dommage, parce qu'en fait, c'est juste à ce moment-là qu'on est en train de voir l'autre dans son humanité. Et quand on n'est pas capable d'aimer l'humanité et qu'on a juste envie d'aimer une image et une projection, on va pas être très heureux dans la vie amoureuse. L'idée, c'est de se dire « ok, Il y a plein de désillusions, il y a plein de trucs. Est-ce que je pourrais pas me rappeler pourquoi j'ai aimé cet homme-là ou cette femme ? Et puis se dire que bah oui, on va peut-être plus envoyer des messages, mais par contre, quand on va passer un temps ensemble, bah en fait, je vais reconnecter immédiatement avec ce que j'aime chez lui et comment je me sens bien avec lui et comment finalement j'ai toujours envie de le voir. Je crois que c'est hyper important à un moment donné d'arrêter de vouloir fabriquer et d'aller se connecter à l'humain. Mais cette phase-là, elle demande une décision. C'est-à-dire, à quel moment je décide que l'autre, dans son imperfection, m'apporte...
Est assez.
Ouais, c'est assez et m'apporte plus de choses que si je le quitte et que je reste tout seul pour recommencer. Est-ce que son imperfection me convient ? Et je crois qu'un amour qui dure, c'est va plutôt être là-dessus. Au lieu d'aimer des qualités et d'aimer des rêves et d'aimer des projets et d'aimer des illusions, on va aimer la réalité. Je crois que vraiment, aimer l'autre quand on le voit dans tout ce qu'il n'est pas assez pour nous, augure d'une relation qui va durer.
C'est très vrai. Et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Comment se remettre d'une rupture amoureuse si, par exemple, toi, t'es encore dans la phase de lune de miel, tu le trouves encore parfait, mais lui, il est vite tombé dans la phase de désillusion et il se dit, oula, en fait, non, ça va pas le faire. Donc, toi, t'es au maximum de ton amour, t'es en train de tomber amoureux à fond, et là, patatrac, quoi. Comment tu fais pour te remettre de ça ? Parce que tu vas te remettre en question, te dire, ben, c'est moi, je suis pas assez comme si.
Oui. Exactement. Alors ça, c'est des choses qui sont assez difficiles, en fait, effectivement. Quand il y en a un qui est au taquet, paroxysme de la lune de miel, et que l'autre se dit, non, et qui s'en va, alors il peut y avoir des trucs en plus très, très violents, comme des ghostings, enfin bon, voilà, il y a vraiment des choses très, très dures à ce moment-là. Moi, j'ai toujours envie, à ce moment-là, qu'on ne remette pas, on va dire, sa propre personnalité en question, mais qu'on remette la dynamique en question.
Parce que compatibilité.
Ouais. Très souvent, à ce moment-là, ce qui s'est passé, quand on décrypte comment on en est arrivé là, comment l'autre, il a décroché, en fait, alors qu'on était en train de monter tous les deux, bah, c'est qu'à un moment donné, probablement qu'il y a eu un espèce d'emballement, de non-contrôle, peut-être trop de demandes, peut-être un peu de dépendance affective, enfin voilà. C'est à ce moment-là où on se dit, OK, la manière dont je fonctionne fait fuir l'autre. Ça n'est pas moi qui fais fuir l'autre. C'est la manière dont je fonctionne et c'est ce que je mets en place avec l'autre comme dynamique qui n'est pas bonne. Ouais. Parce que si au départ, je lui ai plu, il n'y a pas de raison que je lui plaise plus 4 jours après. Sauf si, pendant ces 4 jours, j'ai adopté un comportement de dépendance ou de crainte ou de rigidité. Enfin, voilà. L'amour, c'est une valse. Voilà. L'amour, c'est une valse. Et pour apprendre à danser, il faut avoir le corps souple. Et c'est important de faire ce travail sur soi pour apprendre à avoir le corps souple et pour pouvoir danser avec l'autre.
Eh ben, c'est une super leçon, je pense, une leçon de couple, en fait. Mais est-ce que tu fais des thérapies de couple, d'ailleurs ?
Absolument, oui, bien sûr, je reçois les couples, je reçois ces fameuses personnes dont tu parles, hein, qui ont des ruptures, des difficultés, des problématiques amoureuses, des débuts de relations complexes, qui voudraient faire avancer une relation qui n'avance pas, et je reçois aussi les couples à deux.
Et c'est possible de faire une séance d'hypnose à deux ?
Pas en hypnose, non. Les thérapies de couple sont des thérapies systémiques, voilà. L'hypnose, c'est plutôt en individuel. Ça pourrait se faire à deux, mais bon, je pense que c'est assez compliqué à organiser, donc non. Très souvent, par contre, il m'arrive d'accompagner des couples, et puis à la fin d'une ou deux séances, on s'aperçoit quand même qu'il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui a des blessures, ou il y en a un des deux qui a une problématique qui vient finalement abîmer la relation à deux. Et donc à ce moment-là, oui, je le reçois individuellement, et on travaille ça en hypnose ou d'une autre manière pour le libérer, bien sûr.
Ok. Et pour terminer, je sais que c'est pas trop ton rôle, mais est-ce que tu peux nous donner le conseil pour justement maintenir une relation à flot et longtemps, et que ça se passe bien et qu'on soit heureux ?
Le conseil principal pour maintenir une relation à flot, je sais que c'est pas très romantique ce que je vais dire, mais c'est le respect. Mais pas le respect de l'autre, le respect de soi. C'est-à-dire que je suis toujours le garant de ma propre intégrité. Et je me dois de dire à l'autre ce que j'aime et aussi ce que je n'aime pas. Je me dois toujours de dire à l'autre ce qui est OK pour moi et ce qui n'est pas OK. Et je me dois de trouver un juste équilibre entre valoriser ce qu'il y a entre nous et en même temps refuser ce qui ne me plaît pas pour toujours être responsable de ce que je vis. Parce que quand je fais ça, d'abord je me fais du bien à moi-même parce que je me respecte moi-même et j'envoie l'information à l'autre qui va être nécessaire, qui me respecte. Et je crois que c'est très très important. Moi j'entends trop de gens me dire « mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Mais parfois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à commencer à vivre et à mettre en place soi-même ce qu'on a envie de vivre. Et une relation de couple qui ne fonctionne pas, une relation dans laquelle on est en souffrance, c'est probablement parce que soi-même, on est en train d'accepter de vivre des choses qu'on n'a pas envie de vivre et qu'on n'est pas capable de réagir soi-même pour soi et de s'en retirer ou de dire à l'autre ou d'aller à la confrontation. Et du coup, on est en train de gérer tout seul dans sa tête. Donc, respecter ses propres limites, il faut d'abord les connaître, hein, c'est le petit travail préalable, eh bien, permet à la relation d'être harmonieuse, en fait, parce que l'autre, de fait, va respecter nos propres limites. Et on est plus heureux à deux, quoi. Mais c'est un travail à deux. Donc, le secret pour être heureux en amour, je crois, c'est de faire une petite liste de ce qu'on n'a pas envie de vivre et de ne pas y aller quand on le vit.
C'est ça. Moi, j'appelle ça les no-go. C'est-à-dire que ouais. Si ça m'arrive, c'est pas possible, je m'en vais. Et je pense aussi que les personnes qui ont des no-go et qui savent très bien quels sont leurs no-go, bah, c'est beaucoup plus séduisant. Si la personne se respecte, c'est beaucoup plus séduisant qu'une personne qui est toujours là en train de se dénigrer de façon « je suis gros », de façon « je suis moche », de façon « voilà ». Ça donne moins envie. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi donner envie.
Elle aura de la valeur, en fait. Bah, si je me respecte, que je suis indépendante et que... Enfin, indépendante, on a tous envie d'être aimé, hein. Mais en tout cas, si je me respecte et je n'accepte pas ce que je n'ai pas envie d'accepter, globalement, oui, l'autre a une image de moi quand même plus attractive que si je suis en train de pleurer, de supplier et d'avoir peur et d'attendre. Et voilà, ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qui est séduisant, quoi ? Qu'est-ce qui est séduisant ?
Qu'est-ce qui nous séduit en l'autre aussi ?
Eh oui, et souvent ce qui nous séduit en l'autre, ça va être son indépendance et son autonomie. Hein.
C'est ça.
Si on est, si on est très très honnête. Donc en fait, on sait ce qui nous séduit chez l'autre, ce serait bien de pouvoir le faire chez soi pour être séduisant. Et puis je crois qu'il y a une dernière chose qui est hyper importante, c'est qu'il y a une grosse croyance qui flingue les histoires d'amour, hein, je le dis très honnêtement, c'est de penser que l'autre va changer. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple en disant non, mais bon là, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas, mais ça va changer avec le temps. En apprenant à se connaître, ça va changer, ou avec l'amour, il va changer ça. En fait, quand on démarre comme ça, on démarre très très mal, parce qu'en fait les gens ne changent pas. Et si jamais ils changent quand même pour vous faire plaisir, ou parce qu'ils vont être obligés de le faire, sinon la menace que la relation s'arrête, ils le feront pendant un temps, mais ils le feront à contre-cœur et à contre-nature, et ça ressortira plus tard comme une grosse crise et comme probablement la fin de la relation. Quand on rencontre quelqu'un, on prend quelqu'un qui nous plaît tel qu'il est.
Certains parlent d'amour inconditionnel. Alors, moi, j'aime pas trop utiliser ce terme pour les autres. Je pense que l'amour inconditionnel, oui, envers soi-même, envers les autres, faut pas abuser non plus, quoi. L'amour inconditionnel, ça veut pas non plus dire « Ok, tu peux tout faire ».
Non, parce que l'amour inconditionnel, tu sais, c'est un peu ce truc « Quoi qu'il fasse, je l'aimerais. Du coup, s'il me tape, je l'aimerais quand même parce que le pauvre, machin. » Non. Non. Moi, je crois que l'amour doit être conditionnel, justement. Moi, j'ai besoin, moi j'aimerais bien vivre ça comme histoire d'amour. Moi, j'aime bien qu'un homme, il soit plutôt comme ci, comme ça. Je peux donner des exemples très bêtes. Hein. Moi, j'aime bien qu'un homme, je sais pas, il soit bien habillé plutôt qu'en jogging. Moi, je préférerais un homme qui soit curieux de la culture, que plutôt il regarde le foot en buvant des bières. Bon, en fait, chacun son truc. Mais si du coup, on aime un homme cultivé et qu'on va rencontrer un homme qui regarde le foot et qu'on va se dire « Ah putain, ça me saoule, mais finalement, bon, de toute façon, il va s'investir et puis il y a des soirs, on pourra faire autre chose. » en fait, c'est mort parce qu'on va contre, on veut changer sa nature. Et du coup, non seulement on va s'essouffler, mais en plus, l'autre, il ne va pas se sentir aimé pour ce qu'il est. Et ça va créer des blessures, en fait. Donc, l'idée, c'est de savoir à peu près ce qu'on a envie de vivre et puis de refuser ce qui n'y ressemble pas.
Belle conclusion.
Tout simplement.
je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Bon, cela va sans dire, Sarah, que je vais mettre le lien vers ta chaîne YouTube, hein, bien sûr, pour que les gens aillent un peu creuser, parce que là, évidemment, on survole un peu les sujets, parce qu'on ne va pas non plus faire 6 heures de podcast. Mais en tout cas, déjà, très belle introduction à tout ça. Merci beaucoup pour...
Oui.
ton temps déjà.
Bah, merci à toi.
Donc, on peut te retrouver soit en cabinet, en consultation, soit sur ta chaîne YouTube si c'est encore la première introduction, c'est ça ?
Oui, bon, dans quelques temps, on me retrouvera sur Instagram parce que je vais développer un gros programme. Bref, j'en dis pas trop, mais voilà, sur l'amour. Bref, donc bientôt sur Instagram. Mais pour le moment, effectivement, sur YouTube, sur ma chaîne Les États Amoureux. Et je reçois en consultation au cabinet à Paris, mais aussi en visio pour les gens de toute la France et du Canada et tout ça, tout ça. On fait aussi, je fais aussi des consultations en visio, donc voilà, tout ça, je suis très accessible.
Ok, oui, c'est vrai, t'es très accessible, mais peut-être que tu seras trop bookée à la fin de, ce podcast.
Il y a parfois un peu d'attente, mais bon, c'est pas grave.
Il faut de l'attente hein, pour aller se retrouver et se sentir bien.
Ouais.
En tout cas, merci beaucoup Sarah, et puis je te dis à très vite, prochainement peut-être sur Instagram, enfin.
Oui, merci à toi Laurita, merci pour ton invitation et à très bientôt, avec plaisir.